Est-ce que je ne fais pas du sens à commode? Est-ce que je ne passe pas à un sens second? Ou bien est-ce que ce sens m'est déterminé par le texte lui-même? C'est important, évidemment. Parce que si la résurrection est quelque chose qui se passe après notre vie, nous n'avons absolument pas prise. C'est une expérience qui nous sera donnée, pensons-nous, croyons-nous, espérons-nous, de l'autre côté, comme vous dites. Or, si c'est une expérience d'aujourd'hui, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra, et celui qui vit et croit en moi ne mourra pas. Je prends des paroles comme cela au pied de la lettre, je dois dire, je suis ressuscité. Et je crois que c'est le vrai sens de la résurrection. Être ressuscité, c'est avoir cette confiance et cette foi profonde que nous ne pouvons jamais mesurer, qui est toujours imparfaite, qui n'est jamais chimiquement pure, qui est toujours un don de Dieu, de croire que nous sommes, hein, donc c'est la foi, que nous sommes vraiment mis par Jésus dans le cœur du Père, que nous faisons partie de la Sainte Trinité. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous voyons que le terme de devenir enfant de Dieu n'est plus du tout métaphorique. Il est strictement réel, c'est-à-dire de ressusciter dès aujourd'hui. Ressusciter, c'est entrer librement par son acte de foi dans l'intimité de Jésus et être introduit chez le Père. Et ça, cela ne peut que se croire. Et alors, je me souviens que, quand j'étais en rhétorique, un de mes compagnons, avec qui on discutait beaucoup, et qui avait des angoisses métaphysiques comme ça, il me demandait souvent, est-ce que tu as la foi, toi? Nous avons souvent réfléchi, est-ce qu'on peut dire, est-ce que tu as la foi? Et nous nous sommes rendus compte, à ce moment-là, que la foi, c'était vraiment un être, pas quelque chose qu'on a. La foi, c'est être fils de Dieu, par grâce. Jésus l'est par nature. Nous le sommes par grâce. Et la foi, c'est précisément cela. Alors Jésus, lui, bien sûr, utilise... Et saint Paul, à sa suite, et nous allons voir d'ailleurs demain dans le chapitre 12e, là où Jésus utilise une symbolique végétale pour parler de résurrection. On utilise une symbolique pour parler de résurrection. Dans l'au-delà. Mais, et saint Paul et Jésus montrent bien que l'être ressuscité, ou qui ressuscitera, dans l'au-delà, est déjà présent maintenant en moi.
Mais la première de Saint Jean le dit très clairement.
Sinon, il ne ressuscitera jamais.
Ce que nous sommes, il dit ce que nous serons.
Voilà. Et c'est à cela que je voulais en venir, parce que, vous voyez, nous regardons toujours, nous, résurrection, c'est ce qui se passera après. Eh bien, hein, pour prendre... le passage que le souffle Pierre. C'est là où il s'écrit. Parce que dans la première épître, vous avez exactement le même contenu que dans l'évangile.
Quand Jean ne sait pas le texte sous les mêmes. Ah, mais si, c'est 3, 1 à 2.
Oui, oui.
3, 1.
Voyez quel grand amour nous a donné le Père. Qui est le grand amour que nous a donné le Père? Ben, c'est Jésus, le grand amour que nous a donné le Père. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, car nous le sommes. Pour que nous soyons, nous devenions
contre
Luther. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc nous ne pouvons pas nous rendre compte de ce que peut signifier la résurrection de l'autre côté. Mais nous le sommes. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons, ici aussi, hein, que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous ne le voyons maintenant qu'à travers sa chair fragile. La chair fragile qu'il nous a donnée dans l'Eucharistie. Nous le verrons tel qu'il est. La résurrection, c'est ça.
Mais pour maintenir les deux bouts, ce que nous sommes et ce que nous serons, parce que l'autre extrême, c'est ramener toute la résurrection, l'eschatologie réalisée aujourd'hui.
Ah non. Non. Puisque c'est faire le chemin de Jésus. Et Jésus va mourir. Et Jésus va passer réellement au Père. Mais seulement, nous ne pouvons pas non plus dire ce sera quelque chose de tout nouveau que nous ne sommes pas déjà maintenant. Les deux choses doivent être tenues en même temps.
Et on en a une certaine idée puisque le Christ est apparu.
Tout à fait. Le Christ ressuscité vient dans notre monde. Voilà. Nous arrêterons ici si vous voulez. Mais le terme de sauver obtient un sens second, qui est maintenant proche de résurrection, au sens où, hein, sauver, c'est vraiment racheter de la mort. Et donc, sauver, c'est créer au-delà du, être créé au-delà du péché. Être sauvé. Tu vois? Et alors, à ce moment-là, c'est ressuscité. Être créé, donc, le salut comme création dit le point initial. Le salut comme rédemption dit le point final. Salut englobe tout cela. Création, rédemption. Création, résurrection. La résurrection, c'est le saut final apporté au salut qui est déjà en route de par la volonté de Dieu et l'incarnation du Christ. Donc là, en une phrase, tu as tout.
C'est ça, heureusement qu'elle est enregistrée. Ah. La dimension personnelle et cosmique.
Ah, personnelle, communautaire et cosmique.
L'enfant de Dieu fait toute la relation, moi-lui, le mot salut est peut-être plus vaste.
Ah, tout à fait.
Le salut, c'est tout le créé, pas par la communauté, mais l'univers matériel aussi.
Ah, aussi. Ça, c'est un peu le divin.
La liberté de l'homme qui accueille ce plan de salut. Réflexion, oui. Ça veut dire parce qu'il y en a qui n'en sont même pas connaissance.
C'est vrai, mais la question m'est d'abord posée. Et quand je réponds à cette question, moi, par ma foi, je ne réponds pas pour moi seul. L'aveugle-né est le témoin d'une communauté. Et il témoigne devant une communauté. Et il devient question pour sa communauté, pour ses parents et pour sa communauté. Donc, tout acte de foi n'est jamais purement personnel, il est toujours communautaire. Mais quel est le chemin de la reconnaissance explicite de Jésus comme fils de l'homme, fils de Dieu, hein, il ne nous appartient pas de décider. Mais il nous appartient d'être libre et responsable pour notre acte. Et pour ceux avec qui nous vivons. C'est ça qui est important, je crois. Et je crois que c'est ça qui est indiqué, nous y reviendrons demain, qui est indiqué justement dans la dimension communautaire que vous avez ici, derrière l'aveugle-né, et qui est là dans les moutons. dans les brebis. C'est cette dimension communautaire qui accueille.
Tu me fais penser en disant ça, parce que ben c'est pour l'an prochain, quand Jésus, Pierre dit à Jésus, et lui Jean là, qui est à quelques mètres derrière moi, et lui dit, mais que t'importe, si je veux qu'il demeure, etc., toi suis.
Toi suis. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres, hein, puisque nous aussi, une responsabilité pastorale. Mais finalement, la foi, c'est un acte personnel. Oui, mais d'abord un acte personnel vis-à-vis de la personne de Jésus. Mais comme Jésus est le Fils du Père avec les autres fils du Père, il est communautaire. Mais il ne faudrait pas faire comme une sorte d'acte global, d'acte de foi global. J'entre dans la foi de l'Église, sans qu'il y ait cette adhésion personnelle. Cette foi passe par une adhésion personnelle. Et avec Jésus, c'est vraiment important. Tandis que pour le juif, l'appartenance vient par la circoncision, mais elle est d'abord communautaire avant d'être personnelle. Tandis qu'ici, c'est l'acte personnel qui nous fait entrer dans la communauté des enfants de Dieu. Et il y a un certain nombre de renversements qui sont d'ailleurs tous parallèles entre judaïsme et christianisme, et qu'il ne faudrait pas perdre de vue.
À cause du visage de Jésus, je suis sûr.
Du visage historique de Jésus.
Oui,
du
visage historique.
Je le dis parce que certains disent visage, c'est-à-dire une image de. C'est bien que ce n'est pas complexe. Voilà, on arrête ici. Peut-être que, en lisant surtout les chapitres 7 à 12, on ne lit pas souvent dans la liturgie, excepté le passage de l'aveugle-né, bien sûr, la réanimation de Lazare, mais peut-être qu'en voyant la difficulté de lire ce texte, 7 et 8 ne sont pas faciles. Il y a bien sûr il y a le bon pasteur que l'on connaît aussi, mais il y a tout le tissu conjonctif que l'on connaît beaucoup moins. Et vous aurez sans doute perçu, vous-même, comme moi aussi quand je lis ces passages, une sorte de malaise ou d'incompréhension ou de difficulté, en tout cas, de nous mettre au niveau, au diapason de ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Et nous oscillons constamment, quand nous lisons ces chapitres, entre une impression de spectateur, qu'est-ce qui s'est passé autrefois, qu'est-ce qu'il pouvait bien comprendre de tout cela, quels sont les mouvements de foule éventuels qu'il y aurait eu à l'époque, et une interpellation personnelle. Et il est parfois très difficile de prendre ces chapitres pour nous aujourd'hui. Il ne faut pas s'étonner de cette difficulté. Et il ne faut pas s'étonner en lisant ces chapitres. Moi, je l'ai remarqué chaque fois que je donnais une session sur Saint Jean, ou bien lorsque on prenait, mais ça se fait de lire assez rarement, mais lorsqu'on prenait l'évangile de Jean dans toute sa dimension, par exemple, dans une retraite. Il y a toujours un passage difficile. Certains disent passage à vide. Entre le chapitre 6 et le chapitre 13, il y a comme un passage à vide. Je crois que c'est important d'en prendre acte et de percevoir même une certaine frustration. C'est vrai qu'on peut sauter de 6 à 13. Ça va très bien. On peut sauter de 6 à 13. Pourquoi? Mais parce que le chapitre 6 vous a montré Jésus se donnant à manger, promettant en tout cas l'Eucharistie, et puis à 13, vous en voyez la réalisation. Et on voudrait bien mettre entre parenthèses les chapitres 7 à 12 sauf peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, épingler les actions, les gestes de Jésus, que sont la guérison de la ramenée, la résurrection de Lazare, et puis la belle image du bon pasteur. Et quand on reprend ces trois images-là, ça nous concerne. Mais vous aurez remarqué que ces trois images apparaissent à travers un contexte difficile, qui est un contexte de révélation. Et la révélation, c'est la révélation du péché. Pour croire, il faut commencer par découvrir que l'on ne croit pas et que l'on n'a vraiment pas envie de croire. Parce qu'on se rend compte que c'est diantrement difficile. Parce que croire, ça nous fait adhérer non pas seulement à Jésus, mais à la voie, au chemin que suit Jésus. Et qui est, on découvre bien, un chemin de souffrance, un chemin de difficulté. Les controverses qu'a eues Jésus à Jérusalem attendent également le croyant. Et c'est pourquoi le personnage de l'aveugle-né est vraiment la figure du croyant. Celui qui ne sait plus, finalement, où donner de la tête, tellement on le prend en charge de tous les côtés. Et il croit à quelqu'un dont il ne sait pas encore exactement qui il est. Il ne sait pas qu'il est le Fils de l'homme. Il ne sait pas que c'est Dieu qui est venu le rencontrer dans une solidarité étonnante. Pour lui, mais c'est déjà quelque chose. Jésus, le Christ, le prophète, je ne sais pas très bien comment s'en sortir avec tous ces mots-là, c'est celui qui l'illumine, c'est celui qui lui donne de voir. Et c'est vrai. Jésus est d'abord celui qui nous donne de voir les choses autrement que nous les voyons d'habitude. Et la pression sociale, et nous-mêmes, nous rechignons à voir les choses d'une autre manière que celle que nous avons. Et le monde également. Demander aux médias, ce n'est pas facile, demander aux médias de transmettre l'évangile de Jean, et notamment les chapitres 7 et 8. C'est vraiment pas facile. On se demande comment pourrait-on faire. Tellement, c'est un langage, bien sûr, un langage tout différent, mais une perception profonde de la vie différente. Nous avions peut-être au début, en commençant l'évangile de Jean, une première perception de cet évangile, nous disant qu'il était plus consolant, qu'il était plus réconfortant. Mais nous n'avions pas encore compris la dureté, la profondeur et le sérieux de ce réconfort. C'est vrai qu'il est réconfortant. Et il est réconfortant dans la mesure même où il ne mâche pas ses mots pour nous montrer combien le péché nous habite. Donc ne soyons pas trop étonnés si nous avons, et dans la mesure où nous avons, cette impression aujourd'hui. Ce malaise que nous pouvons ressentir à la lecture de l'évangile de Jean, c'est la difficulté qu'il y a à croire en vérité. Et quand Jésus nous révèle notre manque de foi, il fait grandir notre foi. Mais c'est une manière de penser que nous n'avons pas immédiatement en tête. En fait, la montée de Jésus à la fête des tentes et la conclusion de la vie publique de Jésus, et elle va nous dire exactement ce que saint Jean veut dire quand il parle de gloire. Comment la gloire commence-t-elle à l'intérieur de notre manque, de notre péché? Elle surgit du fond de notre pénurie, du fond de notre pauvreté. Et ce n'est pas pour rien qu'on nous a mis, juste avant ce chapitre 11e et au début du 12e, on nous a mis face à la mort, qui est la pénurie la plus grande. Là, nous ne sommes plus rien. Mais regardez, même quand il revient au monde, Lazare doit être délié. Il faut encore qu'il reçoive sa liberté. Un peu comme quelqu'un qui a eu un grave accident, qui est resté, par exemple, dans le coma ou bien dans une situation d'immobilité longue et qui doit tout réapprendre. Et même quelqu'un qui est resté dans le coma plus pendant quelques temps ou quelques jours et qui doit petit à petit se refaire, se recréer, recréer sa propre personnalité et en tout oublier. Et c'est ceci qui doit en quelque sorte se passer. Le lendemain, je prends verset 12, nous allons d'abord voir cette finale, c'est-à-dire la dernière colonne, où vous avez une entrée à Jérusalem, vous avez un témoignage sur Jésus, et ce témoignage est donné par la voix qui vient du ciel, nous en verrons la signification, et puis nous avons le témoignage d'Isaïe. Vous savez que Isaïe, le prophète, était là au début de l'évangile, dans la personne de Jean-Baptiste. Et maintenant, Isaïe va être cité à l'appui de cette première partie, parce que Isaïe répond à l'Isaïe du commencement, c'est vraiment, il enserre les 12 premiers chapitres, et Isaïe va nous expliquer ce qui se passe. Donc on explique l'Ancien, le Nouveau Testament, on explique Jésus à l'aide de l'Ancien. Parce que ce qu'on nous dit de Jésus, c'est très peu de choses dans le Nouveau. Mais on nous en a déjà parlé abondamment pendant les 1500 pages qui précédaient. Avant qu'Abraham fût, je suis. Le lendemain, la foule nombreuse qui était venue vers la fête, ou vient vers la fête, et cela nous rappelle de nouveau le chapitre 7e, ayant entendu qu'il vient, Jésus, vers Jérusalem, ils prirent les rameaux des palmiers et ils sortirent vers une rencontre pour lui. Je vous ai dit qu'il y a deux moments dans l'année juive où on prend des rameaux, rameaux de palmiers, rameaux d'arbres, rameaux verts, peu importe, souvent des palmiers parce que ça reste vert et c'est facile à agiter. À l'occasion de deux fêtes particulières, la fête des tentes, où en procession on agitait les rameaux en circulant tout autour du temple pendant sept tours, et à la fête de la Chanouka. Et à la fête de la Chanouka, dans la dédicace, on utilise encore cela dans les synagogues. Nous, nous mettons la fête des rameaux immédiatement avant Pâques, mais probablement que historiquement, cela s'est fait à une autre époque, soit à la fête des tentes, soit à la fête de la dédicace, soit à Noël, si vous voulez, soit au mois de septembre. Et dans la liturgie, on a placé cette fête assez proche de la fête de Pâques à cause de ce qui est dit et dans l'évangile de Jean et dans l'évangile de les évangiles synoptiques. On a l'impression en tout cas que cela se passe une semaine avant. Est-ce que c'est historique? C'est possible. Est-ce que c'est liturgique? C'est probable. Ils prirent des rameaux de palmier et sortirent vers une rencontre pour lui. Ils sortent aussi à la rencontre, et ça nous rappelle comment Marthe et Marie étaient sortis à la rencontre. Jésus qui était la résurrection et la vie. Et voici que la communauté va à la rencontre de Jésus, qui est la résurrection et la vie, pour venir placer en quelque sorte au cœur même de Jérusalem la résurrection et la vie. Et ils poussaient des cris, et voyez, si l'allusion à la fête des tentes est certaine, c'est que précisément le psaume 118, qui est le psaume de la fête des tentes, est cité. Et ici, c'est aussi bien par Jean que par les synoptiques. Hosianna, Béni celui qui vient au nom du Seigneur et le roi d'Israël. Hosanna, sauve, nous t'en prions. Sois pour nous le salut. En toi nous espérons. Expression diverse pour dire, tu es vraiment celui en qui nous croyons. Il est capable de nous protéger. De quelle manière? Ah, ça, ça peut être expliqué de différentes façons. Ça peut être jeter les Romains dehors. Ça peut être un salut intérieur, spirituel. De toute manière, cette expression dit bien le salut que l'on attend, salut définitif du Messie. Car ce psaume 118 avait, à l'époque de Jésus, une allure messianique. Vous savez que dans ce psaume, c'est tout un scénario, c'est un jeu, en quelque sorte, qui est repris d'ailleurs lors de l'année sainte, quand on ouvre la porte de la basilique Saint-Pierre. C'est vraiment l'ouverture de la porte pour laisser entrer le roi. Je vais prendre le psaume rapidement. Donc vous avez une première invitation, « Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour », qui revient plusieurs fois dans le psautier. Puis vous avez le roi qui vient, qui fait un récit. Donc le roi qui conduit le cortège fait un récit. Il dit « Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur, il m'a exaucé, il m'a mis aux larmes ». Est-ce que au début il s'agissait d'une victoire royale? C'est probable. Et puis c'est devenu une sorte de stéréotype, le Seigneur m'exauce dans chacune de mes difficultés. Puis il y a un prêtre vraisemblablement qui dit, mieux vaut s'abriter dans le Seigneur que ce qui est dans l'homme. Puis le roi reprend, les païens m'ont tous entouré au nom du Seigneur, je les sabre, par propre sabre, j'étais vraiment victorieux dans la bataille. Mais à l'époque de Jésus, cette bataille était déjà devenue le combat spirituel. Sauf les zélotes qui utilisaient ce psaume comme un psaume de vengeance par rapport aux Romains. J'ai entendu moi-même, à Jérusalem, un jour de la fête des rameaux, une homélie sur ce psaume par Mgr Capucci, qui était plutôt une explication terroriste de ce chapitre. En montrant que, et avec Jésus, les Arabes, les Palestiniens pouvaient mettre les Israéliens dehors. Interprétation. Le jour de la fête des rameaux, qui est la fête de la victoire de Jésus sur ses ennemis. C'est comme ça que c'était perçu. Jésus étant devenu le Messie, le roi.
Et maintenant, il est à la tête de la garde pontificale maintenant.
Occupé avec les canons sans doute, les mitrailleuses. Il m'a poussé pour m'abattre, mais le Seigneur me vint en aide. Et voilà donc que le roi s'adresse à Dieu. On m'a poussé pour m'abattre, mais le Seigneur me vint en aide. Ma force et mon champ, c'est le Seigneur. Donc il fait un acte de foi, d'allégeance au Dieu. Et alors vous avez, à ce moment-là, une réaction du peuple qui est en fait le cœur. Clameur de joie et de salut sous la tente des justes, c'est probablement une rubrique, si vous voulez. À ce moment-là, on peut chanter, on peut jouer de la musique. Alors, le cœur chante, la droite du Seigneur a fait prouesse, la droite du Seigneur a le dessus. Et le roi continue sa prière. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Ah, je ne mourrai pas. Allusion à mort, résurrection. Et publierai les œuvres du Seigneur. Il m'a châtié le Seigneur. À la mort, il ne m'a pas livré. Et le contexte de mort, résurrection qui est présent dans ce psaume. Alors, le roi, ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Et du côté Derrière la porte, le prêtre, c'est ici la porte du Seigneur, les justes y entreront. Puis le roi, je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu fus pour moi le salut. Les prêtres, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la tête d'angle. La foule, c'est là l'œuvre du Seigneur, ce fut merveille à nos yeux. C'est une liturgie. Alors, ce fut merveille à nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, disent les Lévites, pour nous allégresse et joie. Verset qui est repris à la fête de Pâques. Et le roi donne le salut, Hoshiana, sauve, nous t'en prions. C'est pour ça qu'on appelle ce jour-là, la fête des temps, on l'appelle le jour, le dernier jour, l'avant-dernier jour, on l'appelle Yom Hoshiana, le jour de l'Hosanna. Donne la victoire, donne Seigneur le salut, donne Seigneur la victoire, et la foule dit, béni soit ton nom du Seigneur, celui qui vient. Celui qui vient, c'est le roi, celui qui vient, c'est le Messie. Donc celui qui vient, on traduit parfois celui qui doit venir, comme nous l'avons vu, Baruch Haba. Actuellement, quand vous entrez dans une maison, les croyants en Israël qui vous diront Baruch Haba. Heureux celui qui vient avec référence au psaume. Bien, vous entrez à Jérusalem, Baruchim Abayim. Bénis ceux qui viennent, ceux qui arrivent. C'est toujours une allusion à ce psaume. Puis les prêtres alors donnent la bénédiction. Nous vous bénissons de la maison du Seigneur. Le Seigneur est Dieu, il nous illumine. Puis de nouveau, la rubrique. Serrez vos cortèges, rameaux en main jusqu'au corps de l'autel. Allez, ça se grouille par là. Et le roi, alors, approchant de l'autel avec les gens, il est entré jusqu'à l'autel. C'est toi, mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte, je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu fus pour moi le salut. Et les Lévites concluent la cérémonie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Et c'est toute une liturgie. Et donc, on n'en reprend qu'un verset, mais ici c'est la foule qui reprend l'hosanna du roi, mais cette foule reconnaît Jésus qui entre à Jérusalem comme le roi d'Israël. Vers quelle fête marchons-nous? Toujours le chapitre 7 qui est là présent. Hein. Qui est le roi d'Israël? Ah, le roi d'Israël, c'est Dieu, il n'y en a pas d'autre. Et tous les psaumes royaux, 47, et alors toute la série, les psaumes 90, jusqu'à 100. Donc voilà une célébration dont Jésus devient le roi. Il est à la fois le roi et celui que l'on attend. Or Jésus, vous voyez ici, c'est très curieux, parce que quand vous lisez ce texte de la préparation de l'entrée de Jésus à Jérusalem, dans les synoptiques, ils vous disent que Jésus a envoyé deux disciples pour aller chercher un ânon, une monture. Or, chez saint Jean, le texte est très différent. Il y a d'abord cet accueil de la foule, puis... Or Jésus ayant trouvé un ânon. Voilà. Il trouve. On dirait que c'est un hasard. Il ne programme pas la célébration, comme il le fait chez les synoptiques. Ayant trouvé un ânon, ça c'est sûr. Selon qu'il se trouve écrit, et ici, comme les synoptiques, saint Jean cite le prophète Zacharie, chapitre 9, ne crains pas, fille de Sion. Voilà que Jérusalem est personnifiée sous les traits d'une femme. Jésus vient épouser Sion. C'est une entrée de noces, une entrée pour vivre l'alliance. Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur un poulain d'ânesse. Cela, ils ne le connurent pas, ces disciples d'abord, de nouveau. Ils n'en perçoivent pas le sens profond. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais quand il fut glorifié, Jésus, et voilà le terme de glorifié, qui va revenir constamment comme des jalons, mais quand il fut glorifié, Jésus, alors il se souvint, vous vous rappelez, quand il arrivait au temple la première fois, pour purifier le temple, les disciples n'avaient pas compris non plus, mais quand il fut ressuscité des morts, il se souvint qu'il parlait du temple de son corps. C'est curieux hein, qu'au chapitre 12e, nous soyons ramenés au commencement de l'évangile. Donc, c'est bien qu'il veut faire l'unité.
Le rédacteur final justifie ce développement
tout à fait
par cette technique intercontextuelle.
Absolument, absolument. Hein. Toujours les rappels, et en même temps, il y a les anticipations. Alors il se souvint que cela se trouvait écrit sur lui. Donc il se souvint de la signification de Zacharie et il voit que c'est écrit sur lui. Donc il perçoit l'accomplissement par après. Et le chapitre en question, c'est la deuxième partie du livre de Zacharie. Vous voyez, il y a un deuxième Zacharie comme il y a un deuxième Isaïe. Il y a une sorte de serviteur souffrant chez Zacharie, dans la deuxième partie du livre. Je vous lis les versets, chapitre 9, versets 9 et suivants. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne. Ce n'est pas la monture royale, qui est généralement monture victorieuse de cheval. Déjà, Salomon, quand il est entré, il fait sa joyeuse entrée à Jérusalem, vous savez qu'on a dû le loindre en vitesse pour prendre les devants sur le successeur légitime. Salomon n'était pas le successeur légitime de David. Il a été pris grâce à la manigance de Nathan le prophète et de sa mère, Bethsabée. Donc voici que ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humble et monté sur une ânesse, sur un âne, petit d'une ânesse. C'est humble, ce n'est pas l'entrée solennelle. Il supprimera d'Éphraïm la charrerie, c'est-à-dire l'armée, et de Jérusalem les chevaux. Symbolise l'armée, comme aujourd'hui les chars d'assaut. L'arc de guerre sera supprimé, il proclamera la paix pour les nations, sa domination ira de la mer à la mer et du fleuve aux extrémités de la terre. Toi, pour le sang de l'Alliance, je renvoie tes captifs de la fosse dans laquelle il n'y a pas d'eau. À toi, fille de Sion, reviendront les prisonniers qui attendent. Et là aussi, Zacharie fait donne une vision de ce qu'il attend comme le retour des rapatriés. Et donc ici, c'est comme le roi, le descendant de David, qui prend la tête des rapatriés pour rentrer à Jérusalem. De nouveau, pour que l'alliance soit consommée. Et donc ici, Jésus comme le roi va épouser la fille de Sion.
Il écrit vers quelle époque, Zacharie ?
Zacharie, c'est l'époque juste après, au moment du retour d'exil, 583, entre cette époque-là et le deuxième Isaïe, on le place généralement un peu plus tard, un peu les environs de 520, la reconstruction du temple. Mais vous savez que les rapatriés ne sont pas revenus tout d'un coup. Ils sont revenus petit à petit, comme après la guerre de 40, il y a eu un certain nombre de trains qui ont ramené les gens qui étaient dans les camps de concentration. Cela, ils ne le connurent donc pas, ses disciples, d'abord, mais quand il fut glorifié Jésus, alors ils se souvinrent que cela se trouvait écrit sur lui. C'est intéressant cette parole-là, parce qu'il vous montre bien qu'il y a tout un travail de réflexion spirituelle, et qu'on ne comprend pas tout de suite comment Jésus remplit un texte qui était déjà plein de lui, mais qui n'avait pas de visage. Et cela est de lui. Elle rendait témoignage, seule fois dans l'évangile de Jean, où la foule rend témoignage, Jusqu'ici, ceux qui ont rendu témoignage, c'est Jean-Baptiste, c'est le Père, ce sont les actions que Jésus faisait, c'était l'Écriture, et c'était l'aveugle né. Actuellement, c'est la foule. Donc c'est intéressant de voir que le témoignage est passé dans une communauté. La foule qui était avec lui, quand il interpella Lazare du tombeau et l'éveilla des morts. Donc, voilà que la foule reconnaît en Jésus celui qui donne la vie. Celui qui vient mettre la résurrection et la vie au cœur de Jérusalem. En raison de ceci, elle vint à sa rencontre, la foule. Parce qu'ils entendirent ceci, que lui se trouvait avoir fait le signe. Et de nouveau, ici, vous avez quelque chose de nouveau dans l'évangile de Jean, le signe, avec l'article. Sinon, il parlait des signes, les signes que tu fais. Le premier signe de ceci. Tandis que le signe par excellence, c'est celui de la résurrection de Lazare. Et ici, nous pouvons peut-être faire une toute petite parenthèse, qui est en même temps une récapitulation. Dans l'évangile de Jean, il y a sept signes. Bon, le dernier est appelé maintenant le signe. Vous avez le premier signe de Cana, le premier Cana, c'est-à-dire l'eau changée en vin, qui justement parle des noces messianiques de Jésus avec l'humanité à travers Israël, la fille de Sion qui est Marie. Puis vous avez, après ces noces de Cana au chapitre 2, nous passons alors à la guérison, deuxième signe de Cana, Cana 2, Cana 1, Cana 2, vous avez la guérison du fils du fonctionnaire royal. Il n'est pas appelé centurion ici, du fonctionnaire royal. On vraisemblablement la cour des Rois. Le premier se passe au chapitre 2, et le deuxième se passe à la fin du chapitre 4, après la Samarie. Troisième signe, c'est à Jérusalem cette fois-ci, ce n'est plus à Cana, c'est la guérison, donc Jérusalem, la guérison du paralysé de Bethesda. C'est au chapitre 5, avec le discours de Jésus sur l'œuvre du Fils. Nous avons vu ce discours. Puis vous avez le signe des pains, qui est central, qui lui se situe aux environs de la mer de Tibériade. Mais c'est assez curieux que c'est le signe central dans tout le texte de chapitre 6 de Saint-Jean. Après cela, nous avons Jésus qui marche sur la mer immédiatement après, c'est toujours à la mer de Tibériade, Jésus sur la mer, et qui est pratiquement jumelé à l'autre, même que vous aviez Cana-Cana, avec la référence, les deux signes ici sont mis l'un à côté de l'autre, avec une séquence. L'un signifie le repas pascal, et Jésus sur la mer, la résurrection. Annonce de la mort, annonce de la résurrection. Ensuite, nous avons eu la guérison de l'aveugle né à Jérusalem. Et le dernier à Béthanie. C'est Lazare. Et ce dernier est appelé le signe. Le signe.
Les évangiles parlent du seul signe qui est Saint-Jean.
Ah oui. De signe, il ne sera donné que celui de Jonas, qui est précisément celui de la résurrection. Il y a une cohérence. Comme Jonas a été dans le ventre de la mer pendant 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans les antres de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Enfin, ce n'est pas 3 jours et 3 nuits, c'est 1 jour et 2 heures. Donc en raison de ceci, elle vint à sa rencontre à la foule, parce qu'il l'entendit, que lui se trouvait avoir fait le signe. Les pharisiens donc dirent à l'adresse d'eux-mêmes, entre eux, « Observez que vous n'êtes aidé en rien. Vois, le monde derrière lui s'éloigna. » Le monde, le cosmos, tout le monde s'en va vers lui. Il attire tout le monde. Voyez, les pharisiens ne croient jamais si bien dire. Caïphe ne croyait pas si bien dire. Il donnait le sens rédempteur de la mort de Jésus. Et voici que les pharisiens disent la même chose. Ce qu'ils disent est juste. Faites comme ils disent, faites pas comme ils disent. Ils disent que tout le monde s'en va derrière lui. Il est vraiment celui qui attire le monde entier. Se prosternent dans la fête, ces Grecs, ce sont des Grecs juifs, hein, des Grecs israélites, disons en tout cas, donc qui viennent adorer dans la fête. Il y a des gens qui viennent aussi de la diaspora, mais des gens qui parlent grec. Seulement, ces gens qui parlent grec désignent déjà les nations. Ils représentent les nations. Dans le discours de Jésus au temple, quand les pharisiens ne comprenaient pas ce que Jésus disait, est-ce qu'il va aller chez les Grecs? Est-ce qu'il va faire la proclamation, l'évangélisation des Grecs? Là, c'était...